Kiosque Magazine.
Jeudi 26 février, il fait beau, il fait moins froid et si vous en avez marre de l'hiver, dites-vous que vous n'êtes pas seul et je vous rapporte cette nouvelle en entrée parce qu'elle est significative. La police du comté de Harlan dans le Kentucky a lancé un avis de recherche contre Elsa Darendel que vos enfants connaissent comme étant la Reine des Neiges. La suspecte est dangereuse, on vous demande de ne pas l'arrêter vous-même si vous la rencontrez. Voilà, tout est dit à partir du moment où on l'a dit. Ceci dit, nous allons quand même vous parler d'économie et d'emploi puisqu'il s'agit de notre mandat. Et quand je dis nous, je parle bien évidemment d'Éric Desbelleval. Bonjour.
Bonjour, François.
Et de moi-même, François Brodeur. Pendant que la mise en onde de cette émission et les choix musicaux seront le fait de Rémi Hermoso. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas la musique, dites-le-lui, ne vous gênez pas. De quoi allons-nous parler, Éric?
Alors, écoutez, on a souvent rappelé dans cette émission que l'évasion fiscale, dont l'appellation politiquement correcte est optimisation fiscale, est un des cancers qui ronge les équilibres financiers et sociaux dont les États ont besoin pour assurer aux populations une vie, sinon meilleure, mais au moins plus juste. Eh ben, il faut donc se réjouir de toutes les initiatives prises par les 10 États pour lutter contre la fraude, même si elles sont encore un peu timides à l'égard des contribuables institutionnels. Ben, pourtant, c'est ce que Ottawa démarre. Alors ensuite, un petit regard sur les marchés financiers, hein, il faut quand même s'y intéresser. Comment faut-il modifier ou compléter les prévisions boursières de ce début d'année en tenant compte notamment de l'évolution des cours du pétrole? Beaucoup d'analystes ont une vision plutôt optimiste, ce qui pourrait être interprété, à mon avis, comme une incitation à une très grande prudence. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler la belle définition de l'économiste de Jacques Attali. Un économiste, c'est celui qui est toujours capable d'expliquer le lendemain pourquoi la veille, il disait le contraire de ce qui s'est produit aujourd'hui. Et puis... On finira par un article assez amusant qui s'appelle « Le gars saoul à la fête ». On considère qu'il existe un lien connu, naturel, entre politique et économie. Et ben, quand on devient plus précis, la question se complique. Par exemple, quelle est la nature du lien entre populisme et économie? Et surtout, quelles en sont les conséquences? À la lumière des événements qui secouent la Grèce, on peut disserter sur le sujet à partir d'un cas pratique. Voilà pour ce qui me concerne.
Et de mon côté, je vais vous parler d'essence. Je vais beaucoup parler d'essence dans cette émission. Parce que l'essence est moins chère. Alors, il y a des gens qui ont des idées avec ça. Notamment, pourquoi on ne la taxerait pas puisqu'elle est moins chère? Bon, vous me direz, c'est infect pour une fois qu'on a une pause et tout. Mais vous allez voir, l'idée n'est pas si folle que ça. On parle aussi, la terre a dû trembler aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Walmart a augmenté le salaire minimum de ses employés aux États-Unis. Et là, on parle quand même de 500 000 employés d'un coup. On va voir le pourquoi, le comment et le combien aussi. C'est quand même significatif. Mais pour commencer, le SELI qui est peut-être pas... Cet outil qui est censé aider les gens finalement à mettre des sous de côté, mais bien un outil qui favoriserait les plus fortunés, les plus aptes à mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Et je vous reprends sur un point immédiatement. L'optimisation fiscale n'est pas de l'évasion fiscale. Il faut savoir distinguer entre optimisation, évasion et planification fiscale. Il y a des degrés là-dedans. Il y en a un qui vous mène en prison, c'est l'évasion. Alors, je ne sais pas si vous avez à la maison un SELI. Personnellement, j'en ai un et je vous dirais qu'il n'est pas vraiment actif. Mais bon, quand ils ont inventé le truc, je me suis dit, il m'en faut un. Puis comme ma caisse me l'offrait gratuitement, je me suis dit, je vais le prendre. Alors, qu'est-ce qu'un SELI? Je vous rappelle que c'est un compte d'épargne libre d'impôts. La façon dont il fonctionne est relativement simple. Jusqu'à un certain montant, tout l'argent que vous mettez dans ce compte-là va produire des intérêts qui sont à l'abri de l'impôt. L'argent lui-même, les dépôts ont déjà été taxés, donc les retraits que vous faites en capital, c'est de l'argent qui a déjà été imposé et vous ne serez pas réimposé dessus. Mais le concept, c'est que si vous mettez de l'argent dans votre SELI chaque année, eh bien, les revenus qui vont se composer avec le temps, eux, vont se composer à l'abri de l'impôt, ce qui augmente singulièrement le rendement réel de ce compte-là par rapport à un autre. Le gouvernement fédéral propose de doubler la limite qui à l'origine était de 5 000 $. Je ne sais pas si on veut la porter à 10 000 pour permettre aux gens de profiter plus de cet outil-là. On va voir que c'est peut-être contre-productif et en tout cas pas à l'avantage du commun des mortels. Plusieurs auteurs ont écrit là-dessus cette semaine. J'ai retenu le texte que Stéphanie Gramont a publié dans la presse du 25 février, intitulé, et le titre dit presque tout, « La bombe à retardement du SELI ». Tic-tac. Tic-tac. Le populaire compte d'épargne libre d'impôt, le SELI, est une bombe à retardement qui risque de miner nos finances publiques et de mettre en péril les services à la population. Doubler le plafond de cotisation annuelle, comme les conservateurs l'ont déjà promis, ne servira qu'aux riches. Deux études publiées hier ont dressé un portrait inquiétant du SELI dans le futur, et pas n'importe quelle étude. La première, diffusée par l'Institut Broadbent, a été dirigée par Rhys Kesselman, un réputé professeur de l'Université Simon Fraser, qui est le père spirituel du SELI. En 2001, l'économiste avait signé une étude qui a inspiré la création du SELI en 2009. La seconde est venue du directeur parlementaire du budget, encore lui, mon fonctionnaire préféré, qui a pour mandat de présenter une analyse indépendante sur l'état des finances du pays. Toutes deux arrivent à la même conclusion. Le SELI est coûteux et régressif. Le SELI est même pire que le fractionnement du revenu accordé aux familles, qui coûtera 2 milliards de dollars et ne profitera qu'à 15 % des contribuables, qui a été vertement critiqué tant par la gauche que par la droite et même par l'ancien ministre des Finances, Jim Flaherty. Jusqu'ici, le SELI n'a pas essuyé trop de critiques, car les coûts du programme naissant demeurent encore limités, un peu comme un bébé qui ne boit que du lait, mais qui deviendra un ado capable de vider le frigo en un après-midi. En 2015, le SELI devrait priver l'État de 1,3 milliard de dollars, ce qui représente 0,06 % du produit intérieur brut. Les deux tiers des coûts sont assumés par Ottawa, 860 millions, et le tiers par les provinces, 430 millions. Dans 5 ans seulement, les coûts du SELI auront doublé, totalisant 2,8 milliards en 2020. Et d'ici 2080, les coûts du SELI auront été multipliés par 10. Ils représenteront alors près de 0,6 % du PIB, évalue le directeur parlementaire du budget. Ce n'est rien. Si on doublait le plafond annuel du SELI de 5 500 aujourd'hui à 11 000 $ en 2016, les coûts du programme bondiraient d'un tiers à long terme. Cette croissance exponentielle des coûts du SELI contraste vivement avec les autres dépenses fédérales qui sont relativement stables en proportion du produit intérieur brut. Souvenez-vous que, pour contenir les coûts de la pension de la sécurité de la vieillesse, Ottawa a repoussé l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, même si l'actuaire en chef du Canada ne jugeait pas cela nécessaire. Ce sont les personnes à faible revenu qui souffriront le plus de cette réforme. Dommage. N'est-il pas surprenant que le gouvernement soit prêt maintenant à accorder un allègement fiscal dont les coûts vont exploser à long terme? Sans compter que les provinces risquent d'être forcées d'emboîter le pas, même si elles n'ont pas les moyens d'offrir des cadeaux particuliers. Bien au contraire, Québec cherche par tous les moyens à boucler son budget. Devra-t-on faire des coupes dans les écoles, dans la santé, dans les infrastructures? J'aime mieux ne pas y penser. Mais pourquoi hausser le plafond du SELI? La grande majorité des Canadiens ont déjà assez d'espace à l'abri de l'impôt. En cotisant au maximum au SELI et au REER durant toute leur carrière, les travailleurs qui gagnent moins de 200 000 $ se retrouveraient avec des revenus de retraite carrément supérieurs à leur salaire durant leur vie active, calcule l'Institut Broadbent. Clairement, ce n'est pas l'espace qui manque. D'ailleurs, à peine un Canadien sur 6 âgé de moins de 60 ans a rempli son SELI. Une hausse du plafond ne serait donc d'aucune utilité pour la grande majorité des épargnants. En fait, la hausse du plafond profiterait surtout aux très riches. Les ménages au patrimoine élevé verraient leur revenu après impôt augmenter de 4 % en 2060, soit 10 fois plus que les ménages à faible patrimoine, estime le directeur parlementaire du budget. Cela réduirait la progressivité de notre système fiscal. Or, l'impôt doit servir à réduire l'écart entre les riches et les pauvres, lequel augmente sans cesse, pas l'inverse. Et encore là, c'est une vision politique ici, parce qu'on le sait bien, les conservateurs pensent le contraire. Tout cela soulève des questionnements. Que devrait-on faire du SELI? Devrait-on fermer la porte aux personnes à revenus très élevés, comme aux États-Unis? Ce serait un changement pour le moins radical. Un plafond à vie serait-il préférable? Par exemple, un plafond de 100 000 $ par personne ferait doubler les coûts du SELI à court terme, mais les réduirait de 30 % à plus long terme, évalue le directeur parlementaire du budget. Cela donnerait plus d'espace aux aînés qui sont désavantagés par rapport aux jeunes qui ont toute leur vie pour cotiser à leur SELI. Mais cela n'empêcherait pas les investisseurs audacieux d'accumuler des sommes mirobolantes à l'abri du fisc. En investissant dans des actions à haut risque, certains se retrouvent avec un demi-million dans leur SELI, même s'ils n'ont pas pu y cotiser davantage que 36 500 $. Ils peuvent sortir tout cet argent sans payer un cent d'impôt, un cadeau déraisonnable. Pour éviter ce genre de dérive, il y aurait lieu de limiter les actifs pouvant être détenus dans le SELI, par exemple à 800 000. Au-delà de ce seuil, les contributions additionnelles seraient interdites et les revenus excédentaires seraient imposés. L'Institut Broadbent ouvre aussi la porte à une limite REER SELI combinée. Les quelques 22 millions de Canadiens qui ont de l'espace de cotisation REER inutilisé pourraient ainsi acheter de l'espace de cotisation SELI. Cela permettrait notamment à des travailleurs à faible revenu d'utiliser davantage le SELI que le REER, qui peut avoir de fâcheuses conséquences pour eux au moment des retraits. C'est un pensez-y bien. Voilà. À cette époque de l'année, que j'aime parler d'impôts. C'est agréable. On a tous envie de remplir nos feuilles d'impôts. Quand je dis tous, il semblerait qu'il y ait toujours des gens qui soient moins intéressés que d'autres à remplir leurs feuilles d'impôts, ou en tout cas aller à la remplir avec tout ce qu'ils devraient mettre sur leurs feuilles d'impôts.
Oh, comment pouvez-vous avoir des pensées de cette nature, François? Je ne peux pas imaginer qu'un seul de nos concitoyens raisonne de cette façon. Bon, cela dit, trop d'impôts. Tue l'impôt, dit un peu vite, hein, une formule qui pourrait apparaître comme le fauné des tenants du libéralisme absolu pour cacher des pratiques fort peu citoyennes en matière d'impôts. Moi, je préférerais une formule du genre « trop de fraude tue la société ». Je suis sûr que ça vous plaît comme formule. Vous êtes d'accord là-dessus.
Bon. Et passer de l'épure, c'est insupportable.
Alors, figurez-vous qu'Ottawa met en place des mesures pour réprimer l'évasion fiscale. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné. Ça a intéressé Joël Denis Bellavance dans la presse du 20 février. Le gouvernement Harper a lancé un immense filet fiscal le 1er janvier dans l'espoir de débusquer les contribuables canadiens qui se livrent à l'évasion fiscale. Depuis le début de l'année, tous les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus doivent être signalés à l'Agence du revenu du Canada. Des milliers de contribuables ont ainsi choisi de sortir volontairement de l'ombre avant de voir le fisc partir à leur trousse, a appris la presse. Dans sa croisade pour combattre l'évasion fiscale à l'étranger et protéger l'assiette fiscale, le gouvernement Harper a adopté une nouvelle mesure qui oblige les institutions financières et les casinos, marrant ce mariage, peut-être la même chose au fond, à déclarer les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus à l'Agence de revenus du Canada. Ces déclarations se font d'abord au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, comme l'exige la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. J'aime bien cette notion de recyclage des produits de la criminalité parce que ça laisse supposer qu'on s'en resserre une fois qu'on les a recyclés.
Oui, c'est écologique, c'est vert et c'est durable. Ça, hein, c'est surtout très durable, les produits de la criminalité.
Oui. C'est le blanchiment d'argent vert, en somme. Enfin, d'accord. La nouveauté, c'est que CANAFE, c'est ce que je venais de citer, là, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, transmet maintenant automatiquement ses déclarations au fisc. Ces informations l'aident à repérer les contribuables qui cherchent à éviter de payer leurs dus ou qui tentent de dissimuler des revenus et des actifs à l'étranger. Le gouvernement Harper avait annoncé son intention d'utiliser cet immense filet fiscal en 2013, mais la date d'entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2015. En quelques semaines seulement, cet outil a donné des résultats impressionnants. En date du 17 février, l'ARC a reçu 1,5 million de déclarations de télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus. En moyenne, l'agence s'attend à recevoir 10 millions de déclarations du genre par année seulement. Une mine d'or d'informations pour le fisc qui souhaite faire la vie dure aux fraudeurs. La grande majorité de ces déclarations, des entreprises ou des contribuables honnêtes, sont légitimes. Mais cela nous donne un outil indispensable pour lutter contre l'évasion fiscale à l'étranger, a affirmé à la presse Rebecca Rogers, la directrice des communications de la ministre du Revenu national, Carolyn Findlay. Sachant qu'ils risquent de se faire prendre par le fisc un jour ou l'autre, les contribuables ayant omis de déclarer des avoirs à l'étranger sont deux fois plus nombreux à sortir de l'ombre que l'an dernier. Si, en 2013-2014, le fisc a vu 5248 contribuables avoir recours au programme des divulgations volontaires pour régulariser leur situation, ils étaient près du double à le faire durant les 10 premiers mois de l'exercice financier 2014-2015, soit 9244 contribuables en date du 15 février. En 2013-2014, les divulgations volontaires des contribuables ont permis à l'ARC de relever 303 millions de dollars en revenus non déclarés. Durant les 10 premiers mois du présent exercice financier, c'est plus du double, 625 millions de dollars en revenus non déclarés. Il est évident que cette hausse importante des divulgations volontaires est liée à l'obligation de déclarer les télévirements internationaux qui est entrée en vigueur le 1er janvier, a soutenu Rebecca Rogers du bureau de la ministre du Revenu national. Évidemment, les provinces toucheront éventuellement leur juste part des impôts sur ces revenus jusqu'ici non déclarés. Les contribuables qui se manifestent alors qu'ils font déjà l'objet d'une enquête ne pourront pas éviter le châtiment de l'Agence du revenu du Canada. Ils se verront imposer une pénalité imposante, oui, imposer quelque chose d'imposant, et pourraient aboutir en prison. Les conséquences peuvent être graves pour ceux qui ne se dénoncent pas, clame-t-on à l'ARC. D'avril 2006 au 31 mars 2013, l'ARC a d'ailleurs condamné 62 contribuables pour évasion fiscale impliquant 20 millions de dollars en impôts fédéraux éludés, des amendes imposées par les tribunaux totalisant environ 12 millions de dollars et 701 mois de prison. Pour faire une petite comparaison, quand on a lancé en France cette histoire de dénonciation volontaire, ça a rapporté quand même 3 milliards d'euros en l'espace d'un an. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de fraudeurs?
Oui, mais je rappelle ici que c'est quand même un pactole, parce que si vous réussissez à cacher de l'argent pendant 10 ou 15 ans dans des paradis fiscaux, au bout de 15 ans, vous faites votre divulgation volontaire, oui. Vous ne payez quand même que la moitié de l'impôt exigible en échange de votre bonne foi. Donc, vous êtes gagnant en bout de piste. C'est assez choquant, le programme de divulgation volontaire.
Les renseignements obtenus grâce aux déclarations de télévirements internationaux sont comparés aux déclarations de revenus faites à l'ARC par les contribuables. Et depuis 2013, l'ARC dispose de 3 ans de plus pour envoyer une nouvelle cotisation aux contribuables qui ont omis de déclarer des avoirs à l'étranger. Pour comparaison aussi, en France, c'est 10 ans le délai. Dans son dernier budget, le gouvernement Harper s'était fixé comme objectif de récupérer 44 millions de dollars en impôts impayés dans le cadre de sa lutte contre l'évasion fiscale au pays et à l'étranger en 2014-2015. Mais la dernière mesure, entrée en vigueur, pourrait permettre de dépasser cet objectif, bien que l'ARC refuse de s'avancer sur un chiffre précis pour le moment. En 2015-2016, l'objectif est toutefois plus ambitieux, 389 millions de dollars. Et il est encore plus imposant l'année suivante, 439. L'an dernier, le gouvernement Harper a décidé d'emboîter le pas à des pays membres de l'OCDE, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et de remettre une somme d'argent aux dénonciateurs pour démasquer les fraudeurs. Ça, j'aime moins. Bon. Depuis l'entrée en vigueur du programme de dénonciateurs de l'inobservation fiscale à l'étranger, l'ARC a reçu 1700 appels et 189 soumissions écrites pour dénoncer des gens qui refusent de payer leur dû au fisc. Pour l'heure, ces appels et soumissions ont permis aux enquêteurs d'ouvrir 110 dossiers qui pourraient permettre de débusquer des fraudeurs et permettre aux dénonciateurs de toucher des récompenses variant entre 5 et 15% des impôts récupérés si la somme en cause dépasse les 10 000 dollars. Aux États-Unis, le fisc américain a décidé d'intensifier sa lutte contre l'évasion fiscale en ayant recours aux médias sociaux. Les contribuables qui exhibent un train de vie somptueux sur leur compte Facebook, Twitter ou Instagram risquent donc de se retrouver dans la mire de l'International Revenue Service des États-Unis, rapporté il y a quelques mois le site Marketplace. L'IRS utiliserait les photos de voyages, de maisons et de voitures de luxe pour constituer des portraits d'individus susceptibles de se livrer à l'évasion fiscale. Mais à Ottawa, on refuse de divulguer les outils et les méthodes spécifiques utilisées lors d'une vérification ou enquête criminelle. Moi, je me demande s'il n'y a pas deux choses sur lesquelles il faut être absolument vigilant dans une société. C'est tout ce qui concerne la dénonciation et puis l'élection des forces de justice ou de police.
Ici, personnellement, je dois dire que je suis probablement très, très, très confus pour une très rare fois, parce que je suis d'accord avec le gouvernement Harper. Remarquez, je le comprends. À la limite, faire autant de cadeaux dans la loi sur l'impôt aux gens les mieux nantis au Canada et par ailleurs les voir encore cacher de l'argent, ben c'est de l'ingratitude, c'est inacceptable.
Il y a des bruits qui circulent, ridicules, fascicules, fascisants, de la pub culturelle, du cul, de la poubelle, qui sera la plus belle. Des regards pleins de faux, pleins de beaux sentiments pour les marques. Se démarquer, c'est le mot d'ordre et l'ordre des mâles, pour le pire et pour le pire, pauvres riches. Pauvre riche. Uniforme, formaté, des slogans rassembleurs ressemblant aux appels de rassemblement sans discernement. au cri de guerre, les tueries n'ont pas de frontières. Au cri de guerre, les tueries n'ont pas de frontières. Pas de papier, mais des formulaires diplomatiques, la gymnastique des mots démunis. Dilué dire que les mots manipulent. Combien de morts, combien de corps, la faute à qui, la faute à quoi, la photo. Pauvre riche, pauvre riche. Et la faux qui tend les bras, c'est la mort qui gagne les guerres. Pas de mystère, plus de terre mise à feu, mise à nu, et ceux qui misent là-dessus reconstruisent. Propriétaires opportunistes, barba, papa, poupée sans bras et brancardier, écraseur patenté. Pauvre riche, pauvre riche, pauvre riche, les pauvres, pauvres, mais plus pauvres, les pauvres. Pauvres, mais plus pauvres, les pauvres riches, pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres, plus pauvres, les pauvres, pauvres. Mais plus pauvres, les pauvres, pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres, pauvres riches. Mais plus pauvres, les pauvres riches.
Et Thomas Jensen, pauvre riche, effectivement, pauvre riche. Que de misère en ce moment, ce bon monde. Abordons le segment pétrolier de cette émission. D'abord, avec peut-être une petite nouvelle toute courte. On apprenait cette semaine que les auditions de la Régie de l'énergie, qui, je vous le rappelle, est censée approuver au nom du gouvernement fédéral le projet de pipeline Énergie S qui doit traverser notre beau Québec et éventuellement déboucher vers des ports. Eh bien, ces auditions-là sont remises puisque, comme on ne va pas faire de port à Kakuna, ben, les gens de la Régie de l'énergie, ils n'auront pas étudié un projet tant qu'on ne saura pas où ils vont mettre leur port. Ce qui est quand même logique. Est-ce une bonne nouvelle? Bon, enfin, on verra. Bon, ceci dit, vous payez moins cher d'essence, vous en êtes probablement très heureux. Moi, en tout cas, j'avoue que de passer à la pompe sans avoir amené mon notaire, j'aime bien. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de constructif avec cet argent-là, à part le dépenser soi-même? Il semblerait que oui, d'après plusieurs personnes. Et si on surtaxait l'essence dit équitaire, c'est un titre de François Desjardins paru dans Le Devoir du 25 février. L'imposition d'une redevance de 6 cents le litre sur le litre d'essence pourrait contribuer à 1,4 milliard par année au produit intérieur brut du Québec si l'argent récolté à la pompe était réinvesti dans les domaines comme le transport collectif et la rénovation éco-énergétique. Dans son mémoire au ministre des Finances, dont Le Devoir a obtenu copie, l'organisme équitaire reprend à son tour l'argument du Fonds monétaire international, on ne peut pas vraiment penser qu'il s'agit de gauchistes ici, et du Forum économique mondial, qui ne sont pas non plus connus pour être à gauche, selon lequel la baisse du prix de l'essence est une occasion à saisir. Cette mesure serait temporaire, a dit lors d'un entretien Stephen Guilbeault, cofondateur et directeur principal d'équitaire. On pourrait calculer la moyenne du prix de l'essence avant la baisse et quand le prix remonte, on laisse tomber. Selon M. Guilbeault, le gouvernement Couillard pourrait procéder simplement par voie réglementaire plutôt qu'au moyen d'une loi. En 2014, le produit intérieur brut du Québec devrait atteindre 377 milliards, indiquent les documents budgétaires publiés par le ministre des Finances en juin 2014. Les chiffres sur lesquels s'appuie Équitaire sont issus d'une étude réalisée par le cabinet d'Ameco. Pour estimer l'impact des fluctuations du prix de l'essence sur la consommation des ménages et sur l'économie en général, c'est-à-dire la réallocation de l'argent disponible, D'Ameco utilise les multiplicateurs intersectoriels de l'Institut de la statistique du Québec. Le cabinet estime que, sur un an, la baisse du prix de l'essence entraînerait pour le Québec une économie de 3,7 milliards au chapitre des dépenses d'énergie, dont 2,5 pour les ménages. Il compare le prix moyen de 1,37 à de 2014 avec le prix de 1,03 en 2015. Sans aucune redevance, l'impact sur le produit intérieur brut se chiffre à 1,18 milliard et près de 12 900 emplois selon D'Ameco. Une redevance de 6 cents le litre fait tomber à 970 millions l'impact positif. Une redevance de 6 cents le litre avec réinvestissement entraînerait toutefois, selon lui, un gain de 1,42 milliard et 15 700 emplois. Dans un deuxième scénario, D'Ameco évoque une redevance de 9,74 cents le litre d'essence. Si les sommes étaient là encore réinvesties, il y aurait un impact positif de 1,57 milliard au produit intérieur brut et de 17 480 emplois. Depuis le 1er janvier 2015, les règles du marché du carbone qui unit le Québec et la Californie font en sorte que quelques cents ont été ajoutés au prix de l'essence par les distributeurs. Cet argent est versé au fonds vert, auquel contribuent aussi les sociétés visées par le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Le mémoire d'équitaire, qui doit être rendu public aujourd'hui, propose aussi, entre autres, de placer l'écofiscalité au cœur de la prochaine réforme fiscale des villes, de relever à 200 millions le budget du ministère de l'Environnement et de l'ajuster à l'inflation, et d'introduire un système de bonus-malus pour les véhicules des particuliers. La taxation du carbone n'est pas l'affaire d'un groupe d'écologistes. Au cours des derniers mois, d'innombrables entreprises, États, regroupements environnementaux et organisations internationales ont décrit la tarification du carbone comme une façon réaliste et assortie d'incitatifs économiques d'atteindre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Le contexte nouveau créé par la chute des prix pétroliers apparaît particulièrement favorable à l'instauration d'une taxe sur le carbone, a affirmé récemment l'Association des économistes québécois. Ils ont une association, eux autres, ils ont le droit de s'associer? C'est pas un complot? Enfin, dans son propre mémoire. Le gouvernement pourrait ainsi profiter de revenus accrus sans que les prix de détail des produits pétroliers dépassent le niveau qu'ils avaient il y a moins d'un an. Afin de ne pas affecter le revenu disponible des Québécois et de nuire ainsi au soutien de la demande, il pourrait aussi, en contrepartie, abaisser d'autres sources fiscales, telles l'impôt sur le revenu ou la taxe de vente, a ajouté l'association. Le mois dernier, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a dit que dans certains pays avancés, les dirigeants devraient profiter de l'occasion pour relever les taxes sur l'énergie et ainsi se constituer une marge de manœuvre budgétaire ou réduire d'autres impôts, en particulier sur le travail. Vous me permettrez un commentaire ici. Je me rappelle qu'à l'époque, Jacques Parizeau, alors ministre des Finances, avait créé la taxe ascenseur sur le carburant qui devait normalement monter et descendre avec le prix. On s'est aperçu que c'était un ascenseur qui ne savait plus descendre. Alors, je suis un petit peu angoissé. Vous l'entendez, c'est déjà la fin de cette première partie de l'émission. On fait une courte pause et on se retrouve de l'autre côté.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Parti au menu du salaire minimum, un gossou à la fête, mais d'abord et avant tout, on parle de marché financier.
Oui, où en est l'économie mondiale? Ou plus exactement, que conclure de son état de santé pour faire des prévisions sur l'évolution des marchés? Penchons-nous sur une énième prévision, autant d'ailleurs par fascination pour cet improbable exercice que pour son contenu. Bon, allez, on va quand même pas être trop méchant et on va voir de quoi il s'agit. Ça a intéressé Pierre Vallée dans Le Devoir du 21 février. Quand sera-t-il des marchés financiers nord-américains en 2015? L'économie nord-américaine ira-t-elle en croissant? Que se passera-t-il du côté du marché boursier et du marché obligataire? Quels effets auront les taux d'intérêt, le prix du baril de pétrole, le taux de change canadien sur les marchés financiers? L'investisseur devra-t-il ajuster son portefeuille en conséquence? D'abord, une bonne nouvelle. Malgré un ralentissement de la croissance en Chine et une économie poussive dans la zone euro, l'économie mondiale est en meilleure forme que ce qu'on pourrait croire. Selon notre économiste en chef, Stéphane Marion, la prévision de croissance du PIB mondial en 2015 est de 3,5%, explique Anne Lapvaux-Dignard, vice-président à la Financière Banque Nationale. Plusieurs facteurs expliquent cette embellie, dont le faible prix du pétrole qui avantage à la fois les consommateurs et les économies émergentes. Mais le facteur principal est la vigueur de l'économie américaine. Toujours selon Stéphane Marion, la prévision de croissance du PIB américain en 2015 et de 3,3%, sa plus forte croissance en une décennie. La baisse du prix du pétrole ainsi que les faibles taux d'intérêt vont stimuler l'économie américaine, poursuit M. Vaudignard. Et malgré que, c'est pas bien d'écrire comme ça. Malgré le fait que, je corrige, que la réserve fédérale ait commencé à normaliser sa politique monétaire, la faiblesse de l'inflation fera en sorte que son taux directeur demeurera bas. De plus, la confiance des consommateurs est au rendez-vous, en partie en raison du raffermissement du marché du travail. Quant à l'économie canadienne, qui repose beaucoup sur les ressources naturelles, dont notamment le pétrole, la situation est plus complexe. Le prix du baril du pétrole, s'il baisse encore ou s'il augmente peu, aura une incidence sur le PIB canadien. Ainsi, la Banque nationale prévoit que la croissance du PIB canadien en 2015 sera de 2%. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la Banque du Canada va à nouveau abaisser son taux directeur de 25 points de base, avance M. Vaudignard. Fortement ébranlés lors de la crise de 2008-2010, les marchés boursiers nord-américains ont depuis repris du galon. Par contre, ils ont connu plusieurs corrections. Ouais, je fais une petite aparté, c'est vrai qu'ils ont repris du galon. À mon avis, ils ont repris du galon très au-dessus de la valeur à laquelle ils devraient se situer.
En fait, ils ont battu des records qui précédaient la crise. On regonfle le ballon. Là.
Absolument, et tout ça, c'est toujours la même mécanique qui mène aux bulles. Alors qu'ils aient connu quelques corrections, c'est très bien. Je ne suis pas certain que ça soit terminé. C'est vrai que les marchés boursiers sont volatiles, avoue M. Vaudignard. Mais en contrepartie, ils sont résilients. Cette résilience, un concept qu'on applique plus aux problèmes psychologiques, mais bon, allons-y, pourquoi pas, devrait permettre au marché boursier de continuer à s'apprécier en 2015. Stéphane Marion fixe les cibles de fin d'année à 16 200 pour l'indice Standard & Poor's et à 2 220 pour l'indice Standard & Poor's 500. Oui, c'était pour le 2220, le premier. Les investisseurs devront-ils s'ajuster ? Nous recommandons de légèrement surpondérer la part d'action des portefeuilles en actions canadiennes comme en actions américaines, explique M. Vaudignard. C'est lui qui le dit, hein, lui tout seul. Cette surpondération concerne particulièrement le secteur de l'énergie, dont notamment le secteur pétrolier. C'est que le prix du pétrole va finir par augmenter, ce qui va raffermir le secteur de l'énergie. Je fais encore une petite aparté parce que je me suis amusé hier à regarder à 6 mois de distance quelles étaient les prévisions sur l'évolution du cours du pétrole, pas seulement ici, mais en Amérique, mais en Europe. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'économistes avec des cravates extraordinaires et coûteuses, des airs extrêmement distingués et un ton aussi persuasif que celui d'un curé au moment de l'homélie, eh bien, annonçaient qu'on était proche du prix du litre à 2 euros, c'est-à-dire quasiment 3 dollars ou presque.
Oui.
Et bien entendu, il s'est passé exactement le contraire. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Bien. Est-il toujours intéressant, malgré la baisse du taux de change, de faire l'acquisition d'actions américaines ? Étant donné la faiblesse du dollar canadien, l'achat d'actions américaines coûtera plus cher à l'investisseur. Par contre, comme nous prévoyons que le dollar canadien se dépréciera encore, ouais, à mon avis, ça, c'est une bonne raison de penser qu'il va remonter. L'investisseur, lorsqu'il vendra ses actions américaines et convertira le fruit de la vente en devises canadiennes, profitera alors d'un taux de change favorable. Ça, c'est un raisonnement qui me paraît à double détente. Si vous les inversez toutes les deux, mais il se produit une déflagration qui vous revient dans la figure, c'est extrêmement dangereux. Bon, enfin. Alors, les marchés obligataires, voyons voir. Le faible taux d'intérêt fera en sorte que le rendement des obligations, basé selon le taux d'intérêt en vigueur, demeurera relativement bas. Ça, c'est plus facile à prévoir. Est-il temps pour le détenteur d'obligations, portant un taux supérieur à celui qui a présentement cours, de vendre ses obligations sur le marché secondaire, où il obtiendra un prix supérieur à son prix nominal ? Cela dépend, avance M. Vaudignard. Si cette obligation se trouve dans un régime d'épargne enregistré, comme un REER, il est préférable de la garder jusqu'à l'échéance plutôt que de la vendre. Par contre, si elle se trouve dans un compte imposable, la vente peut donner un avantage fiscal puisque le produit de cette vente est un gain en capital dont le taux d'imposition est inférieur. Oui, bon, d'accord. Anne-Lab Vaudignard met en garde l'investisseur contre l'envie de trop vouloir chercher des gains rapides dans son portefeuille d'obligations, surtout en surpondérant ce dernier vers les obligations de société plutôt que les obligations de gouvernement. Ah ouais, il aurait dit ça il y a 2 ans pour la dette grecque, je ne sais pas. Les obligations de gouvernement sont sécuritaires, mais les obligations de société, oui, demandez à Athènes, mais les obligations de société sont plus risquées car elles ont tendance à fluctuer selon le marché. Oui, mais la sécurité, ce n'est pas la fluctuation. La sécurité, c'est le fait d'être remboursé. Bon. Il suggère plutôt d'appliquer à son portefeuille d'obligations ce qu'il appelle la stratégie de la roulette. Il est très important d'avoir dans son portefeuille d'obligations des titres ayant des échéances différentes, par exemple de 2 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans. Ainsi, certains titres arriveront régulièrement à échéance, ce qui offre la possibilité de mieux ajuster son portefeuille d'obligations. Ça revient à nous dire, quand vous commencez la journée, plutôt que de prendre un seul repas à 7 heures, prenez donc un déjeuner, un dîner et un souper. Ah bon sang, voilà un vrai conseil. Bien, alors deux règles d'or. Selon Anne Labvaudignard, la première règle d'or en matière d'investissement, c'est de ne pas trop dévier de la stratégie d'investissement mise en place, même si on choisit de faire des ajustements à son portefeuille. On est loin de la roulette, là. L'image qui me vient en tête est celle du conducteur d'automobile. Si ce dernier donne de violents coups de volant à gauche et à droite, il risque de finir dans le fossé. Vaut mieux conduire en ligne droite si on veut arriver à destination. Ouais, enfin, la bourse est-elle une longue ligne droite avec une route merveilleuse? Je ne sais pas. Et peu importe la conjoncture actuelle des marchés financiers, chaque investisseur est un cas particulier. Les prévisions générales ne doivent pas être prises en considération de la même façon par tous les investisseurs. Il faut toujours tenir compte de la tolérance aux risques et des attentes de rendement de chaque investisseur avant d'effectuer les ajustements à un portefeuille. C'est la seconde règle d'or. Si de tout ça, vous pouvez tirer une ligne de conduite, eh bien, vraiment appelez-nous parce que moi, je n'y arrive pas.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Eric, de vous être fait autant violence pour nous livrer ce texte. C'est quand même impressionnant. Rappelons que les économistes sont la raison pour laquelle on devrait avoir des chapeaux insonorisés à travers desquels on ne pourrait pas parler. Aux États-Unis, il s'est passé quelque chose de parfaitement significatif et ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. On peut l'extrapoler de toutes sortes de manières différentes. Et pour le faire, je vous livre un texte livré par Le Monde et l'Agence France-Presse et publié dans les pages du Devoir du 21 février, vers un dégel du salaire minimum. Walmart a pris jeudi une initiative spectaculaire en annonçant l'augmentation des salaires de 500 000 employés. Le chef de file mondial de la distribution, qui est aussi le premier employeur privé américain avec 1,3 million de salariés, s'est engagé à porter le salaire horaire minimum à 9 $ américains à partir d'avril contre 7,50 $ américains jusqu'à présent, avant de passer à 10 $ en février 2016, soit une augmentation de 33,25%. Oui, c'est beaucoup, mais je reste sidéré de comprendre que des gens travaillaient à 7,50 $ dans le marché américain avec à peu près pas de protection sociale. Nous essayons toujours de faire pour le mieux et de renforcer notre activité. Souvent, nous y parvenons, mais parfois, nous échouons. Lorsque c'est le cas, nous rectifions le tir, plaide Doug McMillan, le PDG de Walmart, dans une lettre envoyée aux employés en guise de mea culpa sur la politique de rémunération menée jusqu'à présent par l'entreprise. Il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il a été nommé, le patron a impulsé une nouvelle dynamique alors que les résultats du groupe étaient en berne. Il a accéléré les investissements dans l'e-commerce. On entend, e-commerce, c'est une expression française, le commerce électronique, on aura compris. À améliorer les rayons frais, moderniser la logistique pour réduire les ruptures de stock tout en misant sur un nouveau format de magasin de proximité. Mais le PDG a pris conscience que ces efforts ne porteraient leurs fruits que si Walmart parvenait à améliorer son image sociale désastreuse. L'enseigne est régulièrement la cible des syndicats qui se plaignent des conditions de travail et de la faiblesse des salaires. En comparaison avec Costco, l'un de ses principaux concurrents, la comparaison avec Costco est parlante. Les salariés sont payés 70 % de plus que chez Walmart. 82 % de ces salariés bénéficient davantage d'une mutuelle santé contre 50 % chez le leader. Résultat, alors que le roulement n'est que de 17 % chez Costco, il dépasse les 40 % chez Walmart à 7,50 $. On comprend bien comment ils pourraient garder leurs employés. Jusqu'à présent, le distributeur se rangeait derrière les arguments de la National Retail Federation qui s'oppose aux appels du gouvernement Obama pour augmenter le salaire minimum, prétextant des conséquences désastreuses sur l'emploi. Mais le contexte évolue. IKEA vient de relever de 17 % le salaire horaire à 10,76 $, tandis que Gap va passer à 10 $ cette année. Dans un pays où le taux de chômage est passé en 5 ans de 9,8 à 5,7 %, Walmart ne pouvait plus se permettre de rester spectateur sous peine d'avoir de plus en plus de difficultés à recruter. Le calcul est aussi macroéconomique. Il y a un siècle, Henry Ford avait compris que ses salariés pouvaient devenir ses clients à condition d'être correctement payés. Walmart, dont la cible de consommateurs se situe majoritairement parmi les bas salaires, fait certainement le calcul que ce qui est lâché en rémunération va se retrouver tôt ou tard dans le chiffre d'affaires. Même si l'on reste loin des 15 $ américains de l'heure que réclament les syndicats, le groupe a annoncé que la mesure lui coûterait 1 milliard de dollars, ce qui a entraîné une chute de 3,2% de l'action jeudi, malgré l'annonce d'un bénéfice trimestriel en hausse, lui, de 12% quand même. L'effort consenti par Walmart doit cependant être relativisé. Comme le fait remarquer Craig Elwell, macroéconomiste au Congressional Research Service, le pic du salaire minimum fédéral en termes réels a été atteint en 1968. Pour égaler le pouvoir d'achat de cette époque, le salaire minimum actuel, qui est de 7,25 $, devrait augmenter de 3,44 $, soit une hausse de 47 %. Pour Christine Owens, directrice du National Employment Law Project, une association de défense des salariés, les 10 $ obtenus sont une maigre récompense comparée aux 16 milliards de profits que le groupe réalise chaque année. Alors, est-ce que Walmart regrette sa politique salariale d'antan ou est-ce qu'ils ne peuvent plus recruter de personnel s'ils n'augmentent pas les salaires? La question est posée, mérite de l'être.
Stop.
Rocky DeWinnie qui reprenait Bob Marley. Éric Desrosiers a encore signé un truc intéressant.
Absolument. Et on le sait, on en parle souvent ici, l'économie se nourrit davantage de théorie que de pratique. Pardon, hein, c'est peut-être une grossièreté, mais je crois que c'est quand même vrai. Et moi, je la trouve démunie sur le terrain du réel. Hein. Elle se réfugie dans la doctrine plutôt que dans l'application. Alors, c'est, je crois que c'est ce qui intéressait effectivement Éric Desrosiers. Est-ce que l'économie peut participer utilement à une confrontation avec certains aspects du politique et notamment le populisme? Alors, il a appelé son article « Le gars saoule à la fête » et on va voir de quoi il s'agit. Les mouvements populistes soulèvent parfois de vrais problèmes. Ils n'aident toutefois pas à trouver de vraies solutions. La planète économique a suivi avec grande attention cette semaine les négociations tendues entre le nouveau gouvernement grec du Syriza et les autorités européennes sur la prolongation de l'aide financière apportée à l'économie hellène. L'événement a généralement été décrit comme le brutal retour sur terre d'un jeune parti qui s'était attiré les faveurs d'une population écœurée par 6 ans de récession et de sacrifices en lui faisant la promesse irréaliste de la délivrer d'une large partie de sa dette et des politiques d'austérité imposées par ses soi-disant sauveurs. Le gouvernement du premier ministre grec, Alexis Tsipras, est devenu depuis un mois le symbole de ce que plusieurs perçoivent comme une inquiétante montée du populisme de gauche comme de droite dans les démocraties occidentales. Alors que les Américains sont aux prises depuis quelque temps déjà avec le Tea Party, les Européens ont eu un choc l'an dernier en voyant débarquer au Parlement de Strasbourg un important contingent de députés eurosceptiques, anti-immigration ou anti-capitalistes en termes des élections européennes. Extraordinaire contradiction de gens qui se font élire dans un Parlement qu'ils contestent. Mais bon. Si la plupart de ces mouvements semblent avoir peu de chances d'être portés au pouvoir, ils n'en inquiètent pas moins à cause de leur effet délétère sur le débat public. Plusieurs observateurs font remarquer qu'ils commencent déjà à déteindre sur le discours de certains gouvernements européens en mal de popularité. Aux États-Unis, on a qualifié de populisme de la classe moyenne le soudain intérêt marqué du président Obama devant l'écart croissant entre ce niveau de vie, son niveau de vie, et celui des super-riches. Presque toujours employée de façon péjorative, l'appellation « populisme » est habituellement associée à des mouvements prétendant défendre les intérêts d'une population victime des élites politiques, économiques ou culturelles arrogantes, corrompues ou à tout le moins décrochées de la réalité. C'est un monde où il y a des bons, le peuple, et des méchants, les riches, les immigrants, les élus, les grandes corporations, les bureaucrates, les banques, et où les problèmes pourraient être réglés simplement si seulement le bon sens des premiers avait plus souvent préséance sur le pouvoir des seconds. Ce courant de pensée se développe typiquement en période de difficultés économiques et sociales. Il n'est donc pas étonnant qu'il fleurisse au lendemain de la pire crise économique mondiale depuis la Grande Dépression et la reprise désespérément molle qui l'a suivie. Un grand nombre de questions qui l'occupent, comme l'affaiblissement du pouvoir des gouvernements nationaux, l'intégration des immigrants ou la montée des inégalités, étaient dans le paysage bien avant cela. Souvent, les populistes n'ont à proposer ni les bonnes solutions, ni même les bonnes questions. C'est le cas, par exemple, de ceux qui voient nos économies victimes d'un complot d'ennemis étrangers intérieurs. Les problèmes qu'ils dénoncent ne sont toutefois pas toujours imaginaires. Difficile de ne pas comprendre, par exemple, la colère et l'exaspération des Grecs devant les ravages de la médecine de cheval que leur ont imposé leurs créanciers et qu'ont accepté d'appliquer leur parti traditionnel de gauche comme de droite. Pour certains, l'une des grandes forces du populisme est de réussir à réunir derrière une cause importante de larges pans de la population qui ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions sur d'autres enjeux. Cela peut donner lieu à d'étranges mariages comme celui que le parti de gauche d'Alexis Tsipras s'est résolu à former avec un petit parti de droite ultra-conservateur, la NEL, pour avoir la majorité au Parlement grec. Ce flou politique peut toutefois devenir rapidement problématique lorsqu'on quitte le terrain des généralités. C'est le cas, par exemple, de la défense de la classe moyenne de Barack Obama, qui lui vaut un vaste appui populaire, jusqu'à ce qu'il soit question de mesures concrètes pour réduire l'écart avec les riches, notait jeudi le Pew Research Center. Voilà tout le problème. Nous vivons dans un monde toujours plus complexe, dans lequel une multitude de phénomènes interagissent à toutes sortes de niveaux, de façon souvent insoupçonnée. Il est peu probable que les causes et les solutions de nos problèmes importants soient simples et ne relèvent que du gros bon sens, comme disent les populistes. Le populisme est à la démocratie ce que l'invité qui a trop bu est au souper, a dit un jour le politologue mexicain Benjamin Arditi. Personne n'ose le mettre à la porte, même si on voudrait bien qu'il parte. Il passe des commentaires douteux. Il manque aux règles les plus élémentaires de bienséance. Mais il dit parfois tout haut des choses que plusieurs pensent tout bas et qui ne sont pas toujours fausses. Est-ce cela avoir l'avantage de parler des vraies affaires ? Peut-être. Est-ce que cela permet d'avoir une conversation intelligente? Sûrement pas. En tout cas, merci à Éric Desrosiers pour cet article qui, lui, est particulièrement intelligent.
Quelques minutes pour vous passer des nouvelles en vrac et en bref. Je commence immédiatement en vous demandant, est-ce que votre médecin est une personne morale? Et par morale, je ne veux pas dire quelqu'un qui a une moralité, mais bien est-ce que c'est quelqu'un qui est incorporé? Puisque, et c'est ce que Marco Bielasserino révélait dans Le Devoir cette semaine, un médecin incorporé est un médecin dont la compagnie facture l'État, lui touche des crédits d'impôt pour dividendes parce qu'il se paie en dividendes et non en salaire. Résultat, un médecin qui gagne 150 000 $ par année et épargne 13 000 $ d'impôts à cause de son véhicule corporatif, alors qu'un spécialiste, lui, épargnerait 20 000 $ par année s'il fait 250 000 $ d'impôts. Comme c'est l'État qui fixe la rémunération des médecins de toute manière, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un billet discutable? Enfin, la question est posée.
Oui, un billet de plus dans ce domaine. Est-ce que vous connaissez le chiffre auquel rêvent les Canadiens fortunés pour leur retraite? Eh bien, oui, vous en avez en tête?
2 millions.
Bravo, c'est exactement ça. C'est
non, le je l'avais lu dans vos...
C'est le chiffre magique pour un mode de vie idéal. Hein? C'est une étude très sérieuse qui a été faite par la banque BMO. Et il faut savoir que le chiffre monte quand même en Colombie-Britannique à 3 millions de dollars. Y aurait-il une différence de niveau?
On le sait, ça fait longtemps qu'Hydro-Québec fait des recherches en matière de piles. Et bien, cette semaine, Hydro-Québec, avec un partenaire, et c'est surtout le partenaire ici qui a fait la percée, c'est un institut de Singapour, ont découvert enfin la façon de faire des piles à base de silicate qui pourrait éventuellement remplacer les piles à ion-lithium avec une capacité qui doublerait, ce qui serait magnifique pour les voitures, pour les téléphones cellulaires, pour plein de choses. Alors, ça va être un dossier à suivre éventuellement, mais c'est un très, très gros marché. Et si la percée se réalise, si les piles sont viables et relativement économiques à produire, eh bien, la voiture électrique aurait le vent dans les voiles.
Alors, pour rester sur ce marché des voitures, eh bien, Volvo annonce une voiture sans conducteur sur les routes, tenez-vous bien, en 2017.
Janet Yellen, qui est, je vous le rappelle, la présidente de la Réserve fédérale américaine, passe devant le Congrès ces jours-ci. Le Congrès qui est passé, lui, aux mains de la majorité républicaine. Alors, ça ressemble beaucoup à une forme de crucifixion publique, puisque Mme Yellen a dit avant la campagne électorale qu'un des problèmes de l'économie américaine, et c'est historique, et finalement que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit. Et ça, pour les républicains, c'est du socialisme. Alors, on reproche à Mme Yellen une déclaration politique, puisque Mme Yellen est ouvertement démocrate, et on oublie toute l'histoire des États-Unis et son marché interne qui reposait justement sur une classe moyenne saine.
Un étudiant canadien de l'université Dalhousie à Halifax a conçu une crème capable d'effacer un tatouage sans laisser sur la peau des traces de brûlure ou de cicatrice. C'est pas mal, alors quand on sait que... Enfin, c'est un point de vue un peu personnel, mais je trouve qu'en matière d'esthétique, bah, le tatouage est un peu ce que le bonhomme Michelin est à la sculpture. Utilisez cette crème dès qu'elle sera en vente.
Je trouve que c'est pas sérieux du tout comme recherche. J'en ai une autre ici. Des chercheurs américains ont enfin trouvé la formule qui permettrait de prévoir le taux de sucre de l'eau d'érable pour le printemps suivant. Moi, je trouve ça capital comme information. Il faudrait mesurer simplement la quantité. Vous savez, de petits hélicoptères l'automne, s'il y en a beaucoup, bien l'eau va être moins sucrée parce que l'arbre va être fatigué. C'est ce que les chercheurs pensent. Je commence les vérifications cette année.
Vous connaissez les jouets Lego, on les connaît tous, on les adore. Bah, figurez-vous que c'est la marque championne du monde, hein, selon une étude anglaise, et elle devance de grands noms. Par exemple, on connaît plus Lego que Ferrari. Moi, je trouve ça bien.
Où iriez-vous en congrès si vous aviez un congrès à programmer? Las Vegas, San Francisco, Chicago, Rio de Janeiro, des villes au nom qui chantent? Eh bien, sachez que dans toutes les Amériques, la ville où on tient le plus de congrès d'affaires, c'est Montréal. Le Palais des congrès de Montréal a terminé une année record. L'année prochaine s'annonce aussi très bien. Et effectivement, c'est à Montréal que les congressistes se réunissent.
La guerre continue entre Samsung et Apple. Et Samsung vient de marquer un point en ayant racheté une start-up américaine spécialisée dans les paiements sans contact qui s'appelle Loopplay. Donc c'est encore une histoire de paiement par votre téléphone, décidément. Qu'est-ce que ça va être que la vie sans téléphone ? J'espère que ça sera encore la vie. Enfin, moi, je m'y accroche de mon mieux.
Comment négociez-vous votre salaire? Il fut un temps, jadis, où on entrait dans une entreprise et on vous expliquait que les employés étaient payés de telle ou telle façon. Ça n'est plus le cas maintenant. On voit apparaître de plus en plus la rémunération à la carte. Moi, je vais prendre la paye extra large spéciale avec 3 desserts, s'il vous plaît. Non, la rémunération à la carte est une forme de rémunération qui vous permet de choisir les formes de votre rémunération, justement. Est-ce que vous allez avoir, par exemple, plus de couverture d'assurance, plus d'indemnités vacances, plus de bonis? Tout ça peut se répartir différemment et de plus en plus, on cherche à aller chercher la réalité de l'employé qui pourrait, par exemple, bénéficier d'une couverture d'assurance par son conjoint, donc ne pas avoir besoin de celle de l'entreprise. C'est le cas le plus flagrant, mais il y en a plein. Donc, c'est une tendance à suivre et les entreprises sérieuses, effectivement, cherchent à maximiser comme ça le rendement de chaque dollar investi dans un employé.
On a beaucoup évoqué ici les perspectives pour Internet de devenir payant. Il y a beaucoup de signes annonciateurs. Eh bien, il y en a un nouveau, c'est que YouTube va être bientôt payant.
Une dernière peut-être pour vous parler de recherche au Canada. Non, on n'a pas le temps, malheureusement. C'est déjà tout pour cette semaine. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci.